Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Michel Vinocq.
Bonjour Patrick Cohen.
Vous êtes l'un de nos grands historiens, longtemps professeur à Sciences Po. Vos travaux sur l'histoire des idées politiques, celle de la France républicaine, sont des références. Vous avez fondé l'excellente revue L'Histoire. Vous publiez aujourd'hui chez Gallimard Jours anciens, qui sont bien plus que des souvenirs d'enfance et d'adolescence dans les années 50 à Arcueil, en banlieue parisienne. C'est l'évocation d'un monde, d'un mode de vie, de pratiques sociales qui ont totalement disparu et qui sont souvent oubliées. Comme l'a dit Bernard Pivot dans le JDD, vous vous faites l'historien de votre histoire. C'est une façon aussi de montrer l'incroyable chemin parcouru en quelques décennies.
Certainement. Ce livre est un livre autobiographique, puisque je raconte mon enfance, mon adolescence, comme vous l'avez dit. Mais en même temps, je sais que chacun d'entre nous appartient à un certain moment, à un certain lieu, et qu'il est représentatif de quelque chose. Autrement dit, dans chaque individu, vous avez une partie qui est l'appartenance à son époque. Et par exemple, dans mon cas, je fais partie des classes creuses, de ceux qui sont nés entre 1935 et 1942, et cela a une certaine importance. J'ai été élevé dans la religion catholique, bon, et c'est banal, ouais. Bon, il y a toutes ces choses.
Et dans une banlieue communiste.
Et dans une banlieue communiste, la ceinture rouge. Bon, tout cela, ce n'est pas, si vous voulez, original. Mais il y a aussi l'autre partie de moi-même, de chacun d'entre nous, qui est irréductible à tout cela. Et qui est ce que nous avons fait. Alors, je vous donnerai un exemple de différence entre les deux dimensions. Je suis d'une famille de 6 enfants, et je suis le 6e, et je suis le seul à avoir fait des études, ouais. Je veux dire des études secondaires et supérieures. Bon, ça, c'est dans ma famille une singularité. Ce n'est pas représentatif des milieux populaires où j'ai vécu.
On va revenir, Michel Vinocq, sur la question des études, mais une chose importante, tout début, dans le prologue de votre livre, vous dites il y a pas de nostalgie, ce sont des jours anciens, mais je ne pleure pas, contrairement à Verlaine. La mort par tuberculose de votre père et de votre frère, à quelques mois d'intervalle, au sortir de la guerre en 44-45, vous a complètement vacciné, si je puis dire, contre le sentiment de nostalgie ou l'idée d'un paradis perdu que serait la France d'avant.
Oui, tout à fait. Je suis toujours un peu irrité par l'idée que c'était mieux avant. Non pas que je bénisse mon époque, l'époque dans laquelle nous vivons, certainement pas, parce que toutes les époques ont leur bon et leur mauvais côté, mais dire que c'était mieux avant, c'est oublier toute une série de choses quand même qu'il faut avoir en tête, et en particulier la santé des hommes, la manière de vivre, le pouvoir d'achat, je n'insiste pas, mais imaginez que on mourrait en 1944-45 encore de la tuberculose, qui aujourd'hui a été à peu près, en France en tout cas, éradiquée. Voir l'espérance de vie, voir ce qui a été fait en termes de progrès de la médecine, de la chirurgie, rien que cet aspect-là nous interdit de dire « Ah, c'était mieux avant ouais. ». Donc, vacciner, oui, je n'aime pas la nostalgie, je n'aime pas les regrets. Alors, naturellement, ça ne veut pas dire pour autant que je déteste le passé. Pas du tout, ou que j'admire, encore une fois, mais je veux être un contemporain, au sens fort du mot, c'est-à-dire vivre avec mon époque. Non pas, encore une fois, pour la glorifier, l'admirer, pas du tout, mais parce que je ne veux pas être détaché du monde, de ce qui se passe dans le monde, d'abord dans mon pays, mais aussi dans le monde, et que avoir la nostalgie du passé, c'est aussi un refuge, une fuite, n'est-ce pas ? Et c'est pas du tout mon cas dans ce livre.
Ah non, pas de nostalgie. Vous rappelez aussi ce qu'était la banlieue avant les bars HLM, des logements pour la plupart sans eau chaude, sans WC intérieur, sans salle de bain où on allait se laver au bain-douche une fois par semaine, ce qui était votre cas. Il y a des centaines de souvenirs qui vont frapper les lecteurs dans votre livre. Le vin qu'on sert à la cantine dès la sixième, le rituel des bagarres et des ascendants dans les classes qui étaient basées sur la force physique et la réputation de cogneurs des uns et des autres, la course au chewing-gum, même déjà mâché auprès des GIs qui occupaient la cité universitaire, et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, Michel Vinocq, le rôle structurant du catholicisme et du communisme dans les classes populaires. Vous avez côtoyé les deux avec leurs bons et leurs mauvais côtés. Un mot quand même pour revenir sur la question de la santé. On en parlait un instant avec deux de vos proches qui sont morts de tuberculose. En lisant cela, j'ai eu la confirmation que l'épidémie qui nous paralyse en ce moment nous renvoie en quelque sorte à des jours anciens, que cette pandémie-là que nous vivons aurait été à l'époque de votre enfance dans l'ordre des choses, non ?
Oui, sans doute, mais les contextes sont absolument différents. La pandémie que nous vivons et dont nous avons tellement de mal à sortir, rappelons-nous qu'elle ne fait pas beaucoup de morts. Je dis évidemment en termes relatifs. Songez aux grandes épidémies qui ont eu lieu dans le passé, la peste, le choléra, la grippe espagnole, etc. C'était des millions, des milliers en tout cas, et des millions de morts si on l'étend au-delà de nos frontières. Aujourd'hui en France, nous avons un peu plus de 40 000 morts. Je ne dis pas que c'est rien, mais je crois qu'il faut relativiser. Après la guerre, nous avons vécu non pas dans l'épidémie, mais dans la pénurie. La pénurie. On n'avait rien en 44, 45, 46. Jusqu'en 49, on a encore des tickets de pain pour acheter le pain. Et dans toutes les familles, il faut s'ingénier à trouver de quoi survivre, de quoi manger. Alors il y a le marché noir, mais tout le monde ne peut pas y avoir accès. Et il y a évidemment des maladies qui découlent de cet état de malnutrition, dénutrition. C'est un contexte, par conséquent, tout à fait différent. Aujourd'hui, nous sommes dans une société riche, je parle de l'Occident, de la France, qui est frappée brusquement par une épidémie, une pandémie inattendue et qui nous rend évidemment craintifs. Mais je crois que les contextes sont tout à fait différents. Dans ces années-là, au fond, on n'avait pas trop peur de l'avenir. On venait de passer, on a eu un passé récent horrible, terrible, on sortait de la guerre, et au fond, il y avait une lumière au bout de nos peines. Nous vivions donc dans la rareté, la pénurie, le désir de faire mieux.
Mais dans la certitude que ce serait mieux demain.
En tout cas, dans la grande espérance.
Ouais. Autre évocation saisissante, Michel Vinocq, de ce qu'était la France dans les années 50, ce système scolaire à deux vitesses, avec l'école des pauvres, dont la finalité était le certificat d'études, qu'on vous a d'ailleurs fait passer, même si vous étiez déjà au lycée, et celle des bourgeois ou des classes intellectuelles qui étaient tournées vers le baccalauréat. On a oublié à quel point le système était inégalitaire.
Ah, complètement. Songez que dans la classe de l'école primaire, la dernière classe où j'ai été, nous étions environ 32 ou 33. Et sur ces 33, nous étions seulement 3 à passer l'examen d'entrée en 6e, c'est-à-dire au lycée. À l'époque, le premier cycle faisait partie du lycée. 3, vous vous rendez compte ? Les gens qui passaient, les garçons, les filles, qui pouvaient passer le baccalauréat, c'était une petite minorité, moins de 10% d'une classe d'âge. Donc, il y avait un cursus qui était celui de l'école primaire, où les meilleurs élèves faisaient ensuite quelques années en cours complémentaires, et parfois pouvait passer l'examen ou le concours d'entrée à l'école normale des instituteurs.
Oui.
Ça, c'était la voix des gens modestes, n'est-ce pas, qui étaient quand même assez doués pour faire des études.
Enseignement bourgeois qui n'était pas une garantie de qualité. Moi, j'ai été frappé en vous lisant par le souvenir pas très flatteur que vous avez gardé de vos profs du lycée Lacanal. En tout cas, c'est pas à eux que vous devez votre vocation d'historien.
Pas d'historien, mais c'est grâce à certains d'entre eux, quand même,
oui,
que j'ai pris un goût...
Pour les lettres.
Un goût immense de la littérature.
Oui.
Car il se trouve que, par hasard, j'ai eu d'excellents professeurs de lettres et de professeurs d'histoire géo qui ne m'ont jamais véritablement séduit, entraîné. Donc, c'est un hasard. Mais c'est vrai que jusqu'au bac, je n'ai jamais pris au sérieux l'histoire. Alors que j'allais devenir plus tard professeur d'histoire. Je voulais être d'abord professeur d'éducation physique, parce que j'étais bon en sport. Et puis ensuite, comme j'avais de très bonnes notes en français, professeur de lettres. Et puis, ce n'est que plus tard, en entrant dans les études supérieures à la Sorbonne, et déçu, très déçu, par l'enseignement de la littérature, que j'ai fait un petit tour vers les historiens. Et là, d'un seul coup, j'ai été émerveillé, ébloui par de très grands profs qui m'ont montré que l'histoire, c'était pas la ritournelle des dates, des batailles, oui, des rois, etc. Non, que l'histoire, c'était vraiment en profondeur la vie même des hommes.
Merci beaucoup Michel Vinocq d'être venu nous parler de ces Jours anciens qui paraissent chez Gallimard, et je rappelle une somme qui est parue récemment, je crois que c'était il y a 3 ans, La France républicaine, histoire politique 19e, 21e siècle, chez Bouquin, la collection Bouquin chez Robert Laffont. Merci d'être venu dans Europe Midi.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, le 13h avec Christophe Lamarre, La France bouge ensuite. Bonne journée à l'écoute d'Europe.
Europe Midi, Patrick Cohen.